retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien annoncé par Donald Trump a marqué le début, en même temps que d'une crise internationale inédite, d'une grande campagne de communication ou d'intoxication internationale. Alors pourquoi les États-Unis veulent-ils rétablir les sanctions contre l'Iran? En quoi ces sanctions vont-elles consister concrètement? Et comment les Européens, notamment, peuvent-ils riposter contre cette utilisation du droit comme arme de guerre, contre celle de leurs entreprises qui commercent avec l'Iran? Alors, derrière les communiqués ronflants, ce sera le sujet de notre émission d'aujourd'hui avec trois invités. Juliette.
Karine Berger, vous êtes ancienne députée PS et vous avez co-écrit en 2016 avec le député LR Pierre Lellouche un rapport parlementaire sur l'extraterritorialité de la législation américaine et vous y pointiez des abus de cette législation. Jean-Michel Quatrepoint, vous êtes journaliste économique, vous avez travaillé pour Le Monde, puis dirigé les rédactions de La Tribune et du Nouvel Économiste. Vous êtes désormais à Polony TV, le média fondé par Natacha Polony. Vous êtes l'auteur de Alstom, un scandale d'État qui revient sur la vente de l'entreprise française à l'américain General Electric. Et Olivier de Maison-Rouge, vous êtes avocat spécialisé en intelligence économique et vous venez de publier aux éditions VA Presse « Penser la guerre économique ».
Alors, on va, tout au long de cette émission, on va essayer de détailler vraiment concrètement en quoi consistent les sanctions dont les États-Unis menacent les entreprises, notamment européennes, qui continueraient de commercer avec l'Iran. Mais peut-être avant, pour qu'on comprenne bien et qu'on prenne l'histoire depuis le début, que reprochent exactement les États-Unis à cet accord qui avait été conclu en 2015? On a peu entendu en Europe leurs raisons précises. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, Juliette.
Oui, alors pour rappel, en juillet 2015 est signé à Vienne un accord qui a pour but de contrôler le programme nucléaire iranien en limitant pour les 10 à 15 prochaines années, selon les points, l'enrichissement d'uranium, la production de plutonium et le nombre de centrifugeuses. L'accord a été conclu entre l'Iran, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. En échange, l'Iran obtenait une levée partielle des sanctions qui visaient son pays dans les domaines de la finance, de l'énergie et du transport. Sauf qu'après avoir déjà refusé à l'automne dernier de certifier cet accord, Donald Trump a annoncé le 8 mai dernier que les États-Unis en sortaient et il en a donné plusieurs raisons qu'on peut écouter.
Last week, Israel published intelligence documents long concealed by Iran, conclusively showing the Iranian regime and its history of pursuing nuclear weapons. The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never ever been made. It didn't bring calm, it didn't bring peace, and it never will. In the years since the deal was reached, Iran's military budget has grown by almost 40%, while its economy is doing very badly. After the sanctions were lifted, the dictatorship used its new funds to build nuclear-capable missiles, support terrorism, and cause havoc throughout the Middle East and beyond. The agreement was so poorly negotiated that even if Iran fully complies, the regime can still be on the verge of a nuclear breakout in just a short period of time. The deal's sunset provisions are totally unacceptable. If I allowed this deal to stand, there would soon be a nuclear arms race in the Middle East. Everyone would want their weapons ready by the time Iran had theirs. Making matters worse, the deal's inspection provisions lack adequate mechanisms to prevent, detect, and punish cheating, and don't even have the unqualified right to inspect many important locations, including military facilities.
Alors, c'est vrai qu'on l'a, dans le tumulte de la levée de boucliers française et européenne contre cette décision, on a peu entendu les raisons de Trump. On vient d'essayer de les donner là. Tout ce qu'il vient de dire, toutes les lacunes de l'accord qu'il vient de souligner, tout ça, c'est bullshit ou il a raison sur quelques points? Qui se lance?
Je voudrais juste rappeler que celui qui était le plus froid sur l'accord en 2015, c'était Laurent Fabius. De tous les négociateurs, c'était le plus dur. Et moi, il se trouve que j'étais allée en Iran quelques mois auparavant et que la France était vue durement du fait de la position très dure. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de questions quand même qui sont soulevées dans cette intervention de Donald Trump étaient mises sur la table à l'époque par les Français et qu'il y avait une forme, c'est vrai, d'incertitude sur un certain nombre de points. Par ailleurs...
Alors, on peut préciser lesquels?
Notamment la question, effectivement, des mécanismes de contrôle sur place et sur pièce de l'Iran.
C'est-à-dire qu'il est vrai que les contrôleurs n'avaient pas le droit de contrôler toutes les installations militaires ?
Alors, je sais qu'à l'époque, en tout cas, Laurent Fabius en parlait, le suggérait. Donc, je ne sais pas ce qui, au final, a été le cas depuis lors, mais c'était un sujet qui a été mis en place, qui a été mis sur la table à l'époque par la France. Ce qui est certain, c'est que cet accord a été voulu à l'époque pour des raisons purement diplomatique, c'est-à-dire faire en sorte que l'Iran ne bascule pas contre les pays européens et occidentaux, que c'est sur ça que ça a basculé, et que les aspects, on va dire, techniques de l'accord
ont été qui sont importants, on est bien d'accord.
– Qui sont importants, mais ont été mis à l'époque probablement un petit peu sous boisseau.
– Ce qui veut dire que Trump n'a pas totalement tort quand il en dénonce les lacunes. Jean-Michel, 4 points.
– Il reprend les arguments de Netanyahou. C'est-à-dire tout ça.
Non, mais peu importe.
Tout ça, tout ça.
C'est vrai ou c'est pas vrai ?
Tout ça a été au coceret. Ouais. Moi, j'en sais rien, je n'ai pas inspecté. Ah. Bon, en revanche, ce que disent les autorités qui sont chargées d'inspecter, c'est que l'Iran a respecté scrupuleusement l'accord.
Bon. Oui, et ce que dit Trump, c'est que cet accord était à trous. Donc on peut respecter scrupuleusement
Trump
un accord à trous.
Trump dit ça parce que d'abord, c'est Obama qui l'a fait.
Il reste les trous.
Trump dit ça parce que c'est Obama qui l'a fait, premier point. Oui. Deuxièmement, il y a un axe qui s'est constitué avec l'élection de Trump, qui est un axe entre Washington, l'équipe Trump, encore plus aujourd'hui avec l'arrivée de ses conseillers qui sont des vrais faucons néoconservateurs, Tel Aviv et Riyad. L'axe est important. C'est-à-dire que
Les aspects politiques sont absolument importants, mais ceux-là, ils sont connus, si vous voulez. Ils sont relativement développés. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les aspects techniques dont on parle moins, et c'est de savoir si les raisons techniques qui donnent à sa dénonciation de l'accord sont valables ou pas. Olivier de Maison-Rouge.
Oui, il faut ramener ça dans un certain contexte. D'abord, ne soyons pas surpris de cette décision, certes politique, car de toute manière, Donald Trump, en campagne, l'avait annoncé. Donc, ce n'est pas une surprise. Et Trump, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un fou, un agité du bocal. Il dit ce qu'il fait et il l'annonce. Donc, c'est un businessman. Alors, on a des raisons, effectivement, pseudo-politiques. C'est un matamore, il aime bien montrer les muscles. Pourquoi ? Parce qu'il va engager un rapport de force. Il dénonce un accord multilatéral. Et je ne serais pas surpris que derrière naisse un accord bilatéral. C'est-à-dire qu'il croit à la relation go-between, c'est-à-dire face à face.
Bilatéral, c'est-à-dire irano-américain.
Irano-américain, absolument. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, et ça va nous amener au sujet de ce débat sur l'extraterritorialité, c'est que les Américains sont en perte de puissance relative, où Donald Trump sert aussi d'épouvantail, disons-le très net. La puissance américaine aujourd'hui est bâtie sur le dollar, notamment. 42% des transactions mondiales sont libellées en dollars. Et dans l'affaire BNP Paribas, en matière d'embargo…
– Attendez, on va revenir sur toutes ces affaires dans le détail. Moi, je voulais juste en préalable poser la question de savoir s'il avait tort sur absolument tout ou pas.
– La contrepartie de cet accord…
– Il semble qu'il ait raison sur certains points, si je…
– En tout cas, il n'a pas forcément tort. Il ne faut pas croire que les arguments techniques qui sont mis en avant par l'administration américaine, qui étaient mis en avant par l'administration américaine avant Trump, puisque je me rappelle très bien des Américains en 2016 me parlant de ça au ministère des Affaires étrangères, donc ces arguments-là, ils les ont en tête et ils ne sont pas forcément tous faux. Ce n'est pas pour autant que ça justifie la sortie de l'accord.
Voilà, on est bien d'accord. Alors, on a un collègue ou quasi-collègue américain qui, lui, s'est penché avec délice sur les aspects techniques de la question.
Oui, en fait, John Oliver, donc l'humoriste qui anime l'émission Last Week Tonight sur HBO, est revenu il y a quelques semaines sur l'accord avec l'Iran, notamment parce que, comme vous le disiez, Trump en a beaucoup parlé pendant sa campagne. Alors, il y a deux points. Alors, disons, sur la question de la surveillance, donc cette surveillance, elle est effectivement opérée par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui dépend de l'ONU et elle prévoit un contrôle régulier de sites nucléaires déclarés et la possibilité d'aller voir sur des sites non déclarés si on soupçonne des tromperies dans un délai de 24 jours. Et c'est ce que donc expliquait notamment John Oliver dans son émission.
– Une remarque, attendez, on va écouter Oliver, mais une remarque sur ce délai de 24 jours.
Alors, je me rappelle très très bien que Laurent Fabius, dans les négociations, mettait en avant des volontés d'unifier, on va dire, les mécanismes de contrôle, je vais le dire comme ça.
– Alors, attendez, qu'est-ce qu'il faut traduire ? Ça veut dire réduire ce délai de 24 jours ?–
Je ne me rappelle plus vraiment, je suis incapable de vous dire si c'était le délai de 24 jours, mais l'idée, c'était de passer un cran de plus sur les mécanismes de surveillance.
– Voilà, alors donc, Oliver.
What specifically does Trump think is wrong with this deal? Well, he has a number of complaints, and the first has to do with monitoring their nuclear facilities.
In terms of, surveillance, They have the right to self-inspect. How about that? On their major, the most dangerous, they can self-inspect.
Okay, so that's just not true. They cannot self-inspect. The deal allows for regular monitoring of all declared nuclear sites, one of which even has 24-hour video surveillance, and it's done by the International Atomic Energy Agency, the UN's nuclear watchdog, which has already confirmed 10 successive times that Iran is complying with the deal.
Voilà. Bon, on ne va pas s'attarder sur cette partie du débat puisque apparemment autour de cette table, personne n'est au courant en détail des dispositions techniques de cet accord. Donc, sur les sanctions, Juliette, un petit rappel des affaires passées, parce que quand on parle de sanctions, évidemment, c'est pas la première fois que les Américains ni en parlent ni les appliquent.
Oui, en fait, pour revenir au présent, le retrait des États-Unis du coup de l'accord implique que des sanctions vont être réintroduites, ce qui inquiète un certain nombre d'entreprises européennes et françaises qui ont recommencé à commercer avec l'Iran. Donc il y a notamment Airbus, Renault, PSA ou encore Total. Et cette dernière a d'ailleurs annoncé qu'elle se retirait d'un projet gazier en Iran pour ne pas entrer en contravention avec ces sanctions, à moins que les États-Unis ne fournissent une exemption, ce qui est assez peu probable vu le discours des États-Unis qui se refusent à cela. Et en fait, si les entreprises s'inquiètent autant, c'est aussi donc parce que ce n'est pas la première fois qu'elles se retrouvent en porte-à-faux avec les États-Unis. Et on compte ces dernières années plusieurs cas de grosses amendes contre des entreprises française. Et le premier cas, c'est celui dont vous parliez il y a pas longtemps, celui de BNP Paribas. Donc en fin juin 2014, la banque française est condamnée à payer une amende de près de 9 milliards de dollars. Et l'affaire était résumée dans le JT de France 2 fin mai 2014. Alors le montant de l'amende entre le JT et après le JT a changé, puisqu'à l'époque, ça n'avait pas encore été décidé.
BNP Paribas dans le viseur des États-Unis. La justice américaine pourrait infliger une amende record au fleuron bancaire français, 10 milliards de dollars, soit 7 milliards 300 millions d'euros. La raison, les transactions effectuées entre 2002 et 2009 par BNP avec trois pays dont le collimateur des États-Unis, Cuba, l'Iran et le Soudan. Tous trois placés sous embargo, une sanction financière des Américains. Et peu importe que ces transactions ne soient jamais passées par le sol des États-Unis, peu importe qu'elles soient légales en France, le problème, c'est que la BNP a utilisé comme monnaie le dollar, inadmissible pour Washington, qui en fait une question de principe.
Les États-Unis veulent faire un exemple avec le cas BNP Paribas. Et donc toutes les autres banques, que ce soit américaines, européennes ou encore d'autres pays, vont certainement y réfléchir à deux fois avant d'aller contre la réglementation américaine.
Alors ça, c'est vraiment le premier cas important visant la France d'application de sanctions et d'utilisation par les Américains du droit comme arme dans la guerre économique.
Sur
l'embargo. Parce qu'après, il y a les histoires de corruption et on séparera bien les deux.
C'est ça, ce que j'allais dire. Voilà. C'est qu'il n'y a pas eu d'acte frauduleux. Il s'agit d'un blocus économique imposé par les États-Unis. C'est une décision unilatérale au nom de leur bon droit. En tout cas, c'est un acte politique fort. Et effectivement, indépendamment de tout lien de rattachement territorial, parce que de quoi s'agit-il ? C'est une loi et une décision politique américaine, votée par un Parlement américain, qui vont appliquer ça à une entreprise française. Et là où je rectifie un propos qui a été tenu, c'est qu'il ne s'agit pas d'une condamnation de BNP Paribas. C'est une transaction. On appelle ça un deal of justice. C'est-à-dire que c'est le ministère de la justice américain, le DOJ, le Department of Justice, qui, ayant constitué un dossier contre la banque BNP Paribas, a négocié un accord qui a donné lieu à une indemnité. Indépendamment de toute faute, indépendamment de tout acte frauduleux. Voilà aujourd'hui comment s'opère, on va dire, un impérialisme juridique qui permet de mettre en œuvre une extraterritorialité du droit.
– Ce qu'il faut rappeler, c'est très simple, mais les gens ne le savent pas forcément, c'est pour quelles raisons les entreprises européennes s'y soumettent. Elles s'y soumettent parce que si elles ne s'y soumettent pas, la porte des États-Unis leur est fermée.
– Absolument, voilà.
Et surtout pour les banques.
– Je me permettrai d'ajouter un point, parce que c'est sur le cas de BNP Paribas, j'ai posé directement la question à la Réserve fédérale dans le cadre de la mission que nous avions faite. –
Parce que vous êtes allé là-bas.
– Parce qu'on est allé là-bas pour comprendre ce qui se passait. On n'a pas été déçus du voyage, dans le sens où en face de nous, on avait une administration totalement fermée, qui ne comprenait même pas nos questions, ou à peu près. C'est-à-dire pour eux, ce n'était pas de l'extraterritorialité, ça relevait de la morale générale. Toujours est-il qu'à la Réserve fédérale, ils m'ont bien dit qu'ils avaient attrapé BNP Paribas et les avaient obligés à négocier sur le fait qu'il y avait une consolidation des comptes obligatoire à déposer auprès de la Réserve fédérale, puisque BNP Paribas a des filiales aux États-Unis. Donc attention, dans le cas précis de BNP Paribas, on n'est pas justement sur une extraterritorialité pure. parce que BNP Paribas est une filiale aux États-Unis, elle est obligée de déposer ses comptes consolidés mondiaux auprès de la Réserve fédérale, enfin auprès des organismes de vérification des comptes. Et c'est sur ce point-là qu'ils ont considéré que ce qui s'était passé dans les négociations à Genève, qui grosso modo était du financement du pétrole iranien, était... pouvaient être poursuivis aux États-Unis.
Ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises sanctionnées, puisque un certain nombre d'entre elles n'ont pas de filiales aux États-Unis et sont sanctionnées quand même.
Oui. Mais dans le cadre de ces lois d'embargo décidées par les Américains, ça remonte il y a une vingtaine d'années. C'est au milieu des années 90 qu'ils ont commencé à prendre des lois. Il y a aujourd'hui l'organisme américain qui est chargé de gérer les sanctions économiques. Il y a 28 sanctions économiques contre des États, l'OFAC. C'est eux qui gèrent ça. Donc ils ont décidé ça. Ils disent, écoutez, moi je décide quels sont les rogue states, c'est-à-dire les États voyous. Hein, et maintenant, si vous commercez avec ces États voyous, moi je vous sanctionne. Parce que c'est au nom du bien. Hein. Je représente la morale, j'ai une vision du monde et je punis ceux qui transgressent le bien. Donc BNP Paribas, ce n'était pas seulement l'Iran, il y avait le Soudan, notamment.
Tout à fait.
Oui. Hein, c'était le Soudan, via BNP, sa filiale suisse.
C'est une compensation pour une opération.
Exactement. Il y a d'autres sociétés qui ont été condamnées au même titre. Il y a Société Générale qui est en cours, il y a déjà eu une première condamnation, et ils vont maintenant monter à plus d'un milliard d'euros.
Crédit
Agricole, 787 millions de dollars. Et il y a aussi des banques anglaises et allemandes qui ont été sanctionnées pour la même chose. Au total, les amendes imposées par les Américains pour ce chapitre-là du non-respect des embargos décidés par les seuls Américains, c'est 6 milliards de dollars.
– Alors moi j'ai une question, tout ce qu'on énonce ici est absolument extravagant, on est bien d'accord, et moi je suis surpris, alors en dehors des périodes effectivement comme la période actuelle, parce que là il vient d'y avoir quand même quelque chose de tout à fait inédit, je suis surpris par la relative discrétion tout de même, et des entreprises elles-mêmes, et des politiques français, on pourrait imaginer qu'un vent de révolte.
Non, parce que les entreprises, elles sont obligées de se taire. Pourquoi? Parce que généralement, notamment sur les affaires de corruption, bon, elles disent c'est mauvais pour mon image.
Non, mais là, on n'était pas dans la corruption.
Oui, mais elles se taisent d'une façon générale. Parce qu'elles préfèrent plaider coupable, hein, c'est leur intérêt. Et ensuite, accepter de payer, faire le gros dos. Et d'ailleurs, au passage, le contribuable français, il paye une partie de l'amende de BNP Paribas, hein, puisque ça se retrouve en moins-value sur les bénéfices. Mais ils se taisent.
Vous êtes heurté à cette difficulté-là?
C'est terrible. À chaque fois qu'on... D'abord, on a eu certaines entreprises n'ont pas refusé de venir à l'audition de la mission parlementaire, mais on a essayé d'envoyer la personne qui avait été recrutée un mois avant, comme ça, qui n'avait strictement rien à dire sur ce qui s'était passé dans les années qui précèdent. Je ne plaisante pas.
C'est-à-dire qu'elles ont même fait de la rétention par rapport à une mission
parlementaire. Mais pour revenir au cas de BNP Paribas, ils ont tenté, BNP Paribas, de dire on n'est pas d'accord. Les États-Unis ont pris leur téléphone, il n'y a pas de problème, on vous enlève votre licence demain.
Ça.
Donc, ça règle le problème. C'est-à-dire que vous êtes à la tête de BNP Paribas, je caricature évidemment, je ne sais pas si ça s'est passé pratiquement comme ça, mais je sais qu'il y a eu un moment, le fait qu'on pouvait très bien... Enfin, l'administration américaine a rappelé gentiment à BNP Paribas qu'il pouvait du jour au lendemain considérer que la licence américaine de BNP Paribas était nulle et non avenue. Et c'est sur ce point-là que les États-Unis, notamment les banques, bien évidemment, ne peuvent pas se permettre d'aller à l'encontre de ces lois extraterritoriales qui, encore une fois, sont extraterritoriales dans la limite du fait quand même que ces entreprises ont souvent des filiales aux États-Unis.
Alors, un chiffre, effectivement, pour conforter ce que vous disiez et les propos qui sont tenus autour de sa table, les chiffres, je les ai depuis hier, depuis l'an 2000, ce sont 74 entreprises françaises qui ont été impactées par des réglementations américaines de conformité. Je ne parle pas de corruption, on ne parle pas de cas de fraude, on parle uniquement de violation, uniquement de textes érigés par les Américains, au nom certes du bon droit, en tant que gendarme du monde, gendarme économique du monde, ça on pourra aussi le dire.
– Impacté, ça veut dire que poursuivi et qui ont dû payer
des indemnités par voie transactionnelle. Je dis bien par voie transactionnelle, parce que ce n'est pas un juge qui décide du sanction, c'est affranchi de toute tutelle.
Bah, oui. Enfin, en même temps, il y a des transactions parce que les entreprises acceptent
c'est
la transaction.
Un accord qui est passé la négociation faisant l'objet de chantage.
Elles sont pieds et poings liés, mais elles acceptent. Oui, voilà.
Parce qu'il y a un chantage économique.
Que vient d'un fait.
Oui, non, mais il y a un
chantage. Oui, alors, moi, je n'utiliserai pas le terme chantage. Je dirais qu'il y a.
Attendez. Je peux juste vous rappeler ce que vous nous avez raconté il y a 3 minutes. Ça ne s'appelle pas du chantage.
Le terme chantage est dans le sens où, du point de vue américain, et c'est très important, du point de vue de l'administration américaine, on l'a ressenti avec Pierre Lelouch quand on y est allé, ce n'est pas du chantage. C'est le respect de la loi et de la morale. C'est pour ça que pour eux, si on leur disait c'est du chantage, ils ne comprendraient même pas. C'est-à-dire que pour eux, c'est. Enfin, quand on viole la loi, quand on ment. Au FBI qui est en train de faire une enquête sur vous, mais c'est pire que enfin, c'est pire que le pire crime. Donc il faut aussi rentrer dans cette logique-là.
Cela ne signifie pas
évidemment qu'ils n'ont pas parfaitement conscience, eux, pour le coup, que c'est en pleine guerre économique avec un certain nombre d'entreprises européennes que tout ceci se produit.
Ils ont une vision universelle des choses et ils représentent cette conception universelle. Ouais, et ils estiment être dans le droit, représenter ça, la morale.
Alors, le messianisme.
C'est le messianisme.
Alors attendez, il faut quand même peut-être nuancer un peu. Ils ont une version universelle, mais quelque part, cette version universelle les sert bien ou peut bien servir leurs entreprises. On va venir sur le cas d'Alstom donc dans une seconde, parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que là, on a parlé avec BNP Paribas d'une entreprise sanctionnée pour avoir violé un embargo, mais la plupart de ces poursuites sont quand même des poursuites exercées par les Américains contre les boîtes pour corruption ou pour soupçon de corruption. Alors, exemple.
Oui, donc c'est vraiment des cas bien distincts parce que ça ne relève pas des mêmes lois ni même des mêmes administrations. Et donc il y a plusieurs exemples ces dernières années. En juin 2010, par exemple, le groupe pétrolier français Technip doit payer une amende de 338 millions de dollars. L'entreprise était accusée d'avoir versé des pots de vin pour remporter des contrats au Nigeria. La même année, donc fin 2010, c'est Alcatel-Lucent qui accepte de verser 137 millions de dollars. Là aussi, après une enquête pour corruption en Amérique latine cette fois. Et l'enquête avait démarré en 2005, soit avant la fusion d'Alcatel en 2006 avec Lucent. Et enfin, il y a l'affaire Alstom. Donc, le fin décembre 2014, le groupe français est donc condamné, est amené à payer une amende transactionnelle de 772 millions de dollars pour des faits de corruption en Indonésie et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et dans le même temps, une grande patrie de l'entreprise est rachetée par l'américain General Electric. Deux faits qui sont rapidement mis en relation. Et c'est cette relation qui pose problème, comme le montre un documentaire, le documentaire Guerre fantôme, la vente d'Alstom à General Electric, qui a été diffusé à l'automne dernier sur LCP, soit 3 ans après les faits.
24 avril 2014. À bord de son jet privé, un patron heureux. Il vient de réussir un gros coup. Entamer en secret la vente d'une des plus grandes entreprises françaises. Mais avant même d'atterrir au Bourget, il déchante. L'accord a fuité, révélé par la presse. Il va devoir se justifier, mais il est pris de court. Surtout, il sait qu'au gouvernement, un homme l'attend de pied ferme. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, le somme de s'expliquer. Comment a-t-il osé vendre sans consulter l'État? Il doit annuler. Le PDG refuse et brandit la menace d'un plan social. Le ton monte. Le ministre lui rappelle qu'il a déjà fait plier d'autres patrons et leurs grands rêves. Lui sera le prochain. Ce bureau, ce ministère, c'est la dernière fois qu'il y met les pieds. Ce café est celui d'un condamné. 2 mois plus tard, à l'issue d'un duel acharné, les deux hommes se retrouvent. Même bureau, mais autre ambiance. Le ministre se tient là, debout et droit. Mais il est sonné et vaincu. Il a perdu son bras de fer avec le PDG. Sa défaite est aussi celle de la France. Ce PDG, c'est Patrick Cron. L'entreprise vendue à l'Amérique, au mépris de l'État français, c'est Alstom. Une vente conclue dans des conditions dignes d'un roman d'espionnage, loin des regards et de l'opinion publique. Une vente qui porte un coup terrible à l'industrie française et à son indépendance énergétique.
Alors, on va essayer d'être clair et cash. Est-ce que General Electric a profité du mauvais pas dans lequel se trouvait Alstom du fait de cette procédure pour mettre la main sur Alstom? Ou est-ce qu'on peut même aller plus loin et imaginer que toute cette procédure ait été déclenchée pour permettre à General Electric de s'emparer d'Alstom?
Non, ça, je dirais pas ça. Le DOJ, il fonctionne comment?
Le département de la justice américain.
Il fonctionne avec les 17 agences de renseignement américains. Et ils ramassent l'information. Les Français, on ne fait pas ça. Nous, on est dans les bisounours. Donc, eux, ils ramassent toute l'information, que ce soit dans la presse, tout ce qui peut être publié. Et il découvre effectivement, en 2010, que les Indonésiens ont introduit une action en justice parce que pour un petit contrat, 120 millions de dollars, pas grand-chose, obtenu par Alstom en 2003 avec un associé japonais, d'ailleurs Mahubeni, pour une centrale électrique en Indonésie, et qu'à cette occasion, bah, il y a 2 millions de dollars qui ont été versés à deux intermédiaires. Il se trouve que ces 2 millions de dollars, c'est l'enquête qui va révéler ça, ont transité par la filiale américaine d'Alstom, qui a été le moyen pour...
– Le lien de rattachement.
– Voilà. Donc il y a indiscutablement, le fait de corruption est avéré, c'est clair. Donc à partir de 2010, le DOJ se saisit de ça. Et il commence à demander à Alstom, bon ben voilà, on va enquêter, etc. Alstom fait la sourde oreille. Comme beaucoup d'entreprises françaises, puisque les entreprises françaises ne se parlent pas entre elles. Celles qui ont été prises la main dans le sac ne disent rien, elles se cachent. De la même façon, les autorités françaises, elles, ignorent ou font semblant d'ignorer ce genre de choses.
Ignorent ou font semblant ?
Les deux.
Non, mais
nous n'avons pas d'instrument d'intelligence économique dans ce pays. Ouais. C'est-à-dire, on ne croit pas à la guerre économique dans ce pays. Hein, depuis 1989, on est dans un monde de bisounours. Hein, et nous avons des alliés, des partenaires, mais nous avons pas, on ne pense pas que les partenaires peuvent être des concurrents qui sont prêts à utiliser tous les moyens contre vous.
Bon.
Donc à partir de là, 2010, la pression monte. Arrive 2012. Et là, je crois que l'actionnaire principal d'Alstom, Martin Bouygues, qui a 30%, qui n'est pas content de sa participation, qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait dans le cadre de la restructuration du nucléaire, se dit « Oh là là !» Lui, je pense qu'il comprend tout de suite ce que veut dire l'opération du DOJ.
– Il a besoin de capitaux.
– Il a besoin, lui, de capitaux pour autre chose. Donc il envisage de sortir. Et le gouvernement français, c'est ce que nous avons appris avec la commission d'enquête parlementaire présidée par Olivier Marleix, le gouvernement français, en l'occurrence l'Élysée, est au courant.
– De l'époque, François Hollande.
– Nous sommes en octobre 2012, juste après l'élection de François Hollande. Et le principal conseiller qui suit ces dossiers aux États-Unis, sur ces dossiers industriels, c'est Emmanuel Macron.
– À l'époque, secrétaire général adjoint. –
Secrétaire général adjoint en charge des questions économiques. –
De l'Élysée.
– Et en plus, il connaît bien les dossiers industriels, Emmanuel Macron. Il connaît beaucoup de choses, il est très compétent, etc.
– Quel rapport avec notre sujet ?–
Eh bien, il demande à David Azéma, patron de l'agence des participations d'État, de commander une étude à un cabinet anglo-saxon, à Tekernay, sur quel avenir pour Alstom au cas où l'actionnaire principal voudrait se retirer. Au bout de 4 semaines, A.T. Kearney rend ses conclusions. La meilleure solution, c'est General Electric. Nous sommes novembre 2012.
Jean-Michel Cartouin, quel est le rapport avec le sujet et avec la question ? Est-ce qu'il y a un rapport entre...
Oui, il y a un rapport direct. Il y a un rapport direct parce que je pense que Bouygues est motivé aussi. Il sait très bien que l'enquête du DOJ va monter en puissance, hein, et que pour Alstom, et donc pour la valeur de l'action, c'est capital. Arrive 2013. Nous sommes en mai 2013. Ouais. La pression est montée. Et là-dessus, un cadre dirigeant d'Alstom, est pris à l'aéroport de Kennedy, Frédéric Pierucci, par les autorités américaines,
mis en prison,
dans une cellule de haute sécurité, avec les violeurs, les dealers, etc., et pression sur lui. Auparavant, les autorités américaines avaient pris un employé d'Alstom États-Unis, qui s'appelle...
On ne va pas se noyer dans les détails, si vous permettez. Quel est le rapport entre ce rapport commandé par Macron à l'époque, secrétaire général adjoint de l'Élysée, et le déclenchement des poursuites américaines
Le rapport, c'est que les autorités françaises étaient parfaitement au courant qu'il y avait un problème sur Alstom et qu'il y avait effectivement l'enquête du DOJ. Ils le savaient.
Le rapport, c'est pas ça. Le rapport, c'est comment...
Mais ça fait partie... Mais la plainte du DOJ, l'enquête du DOJ, fait partie de l'ensemble.
D'accord.
C'est-à-dire que
pour être clair, ce rapport avait informé l'Élysée de l'enquête du DOJ sur...
Dans le contexte, il y avait un intérêt commun entre General Electric qui souhaitait racheter Alstom et un actionnaire principal, Bouygues, qui souhaitait se retirer.
D'accord.
Ça, c'est ce qui a été révélé depuis peu de temps, en réalité. Donc il y avait un intérêt commun. Donc en rigueur, on était dans une négociation sans doute classique. Mais, et alors ne croyons pas à la thèse complotiste, évidemment, il ne s'agit pas de verser bêtement dans cette histoire fabriquée. En revanche, il est évident que les actes de corruption révélés et l'enquête du DOJ a favorisé l'affaiblissement d'Alstom et la montée en puissance de General Electric dans les négociations.
Juste un point qui ne ne doit pas valider une idée du complot, mais il se trouve que le patron de GE à l'époque a un lien de famille avec celui qui mène les enquêtes pour le responsable du département de justice. Donc c'est extraordinaire. Alors,
attendez, pardon. Qui a un lien de parenté avec qui?
Jeffrey Immelt, le patron de General Electric à l'époque.
D'accord.
À un frère qui travaille au département de la justice.
Ah. Qui est celui qui mène l'enquête sur Alstom.
Ah.
Alors,
on ne va pas retomber dans le chantage, mais effectivement.
C'est un élément quand même qui ne doit pas non plus être totalement tu, même si cela ne signifie rien et on ne peut rien en conclure. Il n'empêche que c'est un élément qui ne doit pas être tu, dans le sens où il ne faut jamais oublier que General Electric est une entreprise américaine, que les Américains ont des enjeux stratégiques très clairs, partagés par l'ensemble de l'administration américaine sur, évidemment, les questions de contrôle énergétique, et que tout ce qui peut favoriser General Electric est quelque chose qui peut être compris par n'importe qui dans l'administration
Être compris. Comme les choses sont dites. Alors, et d'autant plus, a fortiori, que ce n'était pas la première fois que General Electric fondait sur une entreprise visée par des procédures américaines.
C'est ce que révèle aussi le documentaire de LCP, c'est qu'il y a une forme de système qui aurait été mis en place par l'entreprise GE pour racheter des entreprises sous la menace d'amende. Donc on peut voir l'extrait.
Le cas Alstom, c'est la cinquième fois que General Electric fait de la croissance externe, c'est-à-dire de l'acquisition d'entreprises étrangères, en s'appuyant sur la justice américaine et les lois du FCPA.
De fait, General Electric n'en est pas à son coup d'essai. En 10 ans, l'entreprise américaine a racheté 5 sociétés poursuivies par le département de la justice pour fait de corruption. À chaque fois, le schéma est le même. Une enquête à charge est menée par la justice, et le rachat intervient sous la menace d'une condamnation avec amende, ainsi évitée. Ces entreprises sont américaines, britanniques et françaises. L'amende de 26 millions de dollars payée par la société Vedco Gray en 2007, après avoir été rachetée par General Electric, est qualifiée alors de plus grosse amende jamais infligée par le Foreign Corrupt Practices Act. 8 ans plus tard, le record est battu par Alstom. Ces poursuites ont systématiquement permis de mettre la pression sur ces entreprises et d'en faciliter le rachat par General Electric.
Vous étiez en possession de toutes ces informations au moment de la rédaction du rapport ?
Nous avons posé avec Pierre Lelouch directement la question aux responsables du FBI et des enquêtes de savoir quels avaient été les liens entre General Electric et l'administration américaine à l'époque. Il a refusé de nous répondre, mais il n'a pas non plus nié le fait qu'il y avait eu des échanges. J'ajouterai un point qui est le dernier point de l'extrait que vous venez de passer. 772 millions de dollars, ça signifie que General Electric devait être vendu, ils n'avaient pas l'argent. Que Alstom devait être vendu, il n'avait pas l'argent. C'est fondamental. C'est-à-dire que dans la façon de fixer le montant, le département de la justice américaine décide du sort de l'entreprise.
C'est d'autant plus important que, si j'ai bien suivi, au départ, c'est General Electric qui devait porter le poids du coup de cette amende. Ça faisait partie du deal de vente. Et qu'au final, l'amende a été portée, je crois, par décision de la justice, des négociateurs américains, ce qui restait d'Alstom, qui n'appartenait pas à General Electric.
C'est le scandale jusqu'au bout, c'est la cerise sur le gâteau. Oui.
Non, mais je ne voudrais pas faire du complotisme, mais il y a quand même énormément d'éléments troublants, non ? Je veux dire, quand on met bout à bout les liens de parenté, les cinq boîtes rachetées, fixation précise du montant de l'amende, et pourtant vous ne souhaitez pas conclure.
Mais la difficulté de la conclusion, ce qui nous est répondu à raison, c'est que Alstom a fraudé. C'est ça l'immense difficulté, c'est-à-dire que sur un point qui, n'est débattu par personne, il y a un effet levier de l'administration américaine, j'estime à titre personnel, au profit d'une guerre économique menée par les États-Unis contre les entreprises européennes, mais c'est un avis personnel, il y a un effet de levier qui permet tout simplement d'accélérer des procédures. Mais on pourra toujours secouer les choses dans tous les sens, il se trouve qu'au départ, Alstom s'est mis un peu dans la main de ce mécanisme.
– Y compris en fraudant à travers leur filiale américaine, ce qui n'était quand même pas la chose la
plus… – Alors, sur ce point-là… –
C'était pas aussi évident. –
C'était en 2003.
– Et puis sur ce point-là, il semblerait quand même que les informations sont venues d'une réunion entre quatre murs où personne n'a parlé. Donc on ne sait pas très bien comment ces informations sont sorties de la pièce. Mais ça, ça nous a été confirmé par les Américains.
En fait, il faut bien comprendre ce qui s'est passé pour Patrick Cron et pour les dirigeants d'Alstom.
L'ancien patron d'Alstom, oui.
En 2013, il a cette enquête du DOJ qui devient sérieuse à partir du moment où un de ses principaux cadres est en taule. Et on oblige ce cadre, on lui dit, il faut que tu mouilles tes dirigeants.
Classique.
Hein, classique. Classique. Bon, c'est les feuilletons américains, exactement.
Pas seulement américains, d'ailleurs.
Oui, et à l'époque, on parle d'une amende d'1,5 milliard de dollars. C'est, un milliard cinq. Donc c'est énorme. Alstom ne peut pas survivre à ça. Ensuite, Alstom, c'est vrai qu'il y a un problème du marché des turbines à gaz, etc., qu'il y a un ralentissement, que Bouygues veut sortir. Et donc pour Patrick Cron, moi j'essaye de me mettre à sa place. Hein. Il est pris avec un faisceau d'éléments. Eh bien, mais c'est bien sûr la seule solution. C'est de vendre la General Electric, pas à Siemens, parce que Siemens, c'est une bête noire pour les Américains. Ils les ont déjà condamnés à 800 millions de dollars pour des faits de corruption également. Donc, il faut vendre à qui? À un Américain. Et General Electric attend depuis plusieurs années. Ils avaient raté le rachat de la filiale TND à Dareva, et ils attendent. Et ils ont des gens en France qui... General Electric est très important en France. C'est une entreprise qui est là depuis longtemps, qui a beaucoup d'activités, qui a déjà racheté beaucoup d'entreprises françaises dans la radiologie. Ils participent à la construction des moteurs CFM56 avec une joint venture avec Safran. Ils ont des usines à Belfort, etc. Donc c'est un acteur important et ils attendent.
Alors je voudrais qu'on s'arrête sur un aspect que moi j'ai découvert à l'occasion de la préparation de cette émission et qui est particulièrement spectaculaire. C'est, je dirais, c'est la sanction dans la sanction. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le monitoring.
Double cerise sur le gâteau.
C'est ça. Effectivement, il y a une chose qu'il faut bien comprendre dans la manière dont fonctionnent toutes ces amendes. Donc, on en a déjà parlé. Elles sont souvent conclues dans le cadre d'accords, en fait, entre les entreprises et des administrations américaines, sans passer par des procès. Il y a une procédure qui s'appelle l'accord de poursuite différée, qui est utilisée très fréquemment. Et elle implique, alors, en amont, que l'entreprise mène et paye une enquête interne pour prouver les faits dont elle est accusée, puis qu'elle paye, donc, une amende pour ces faits. Et bien souvent, en plus de cette amende, est mis en place le processus donc de monitoring, c'est-à-dire qu'un moniteur extérieur, souvent mandaté par les autorités américaines, surveille, contrôle que les entreprises mettent bien en place des dispositifs, notamment anticorruption par exemple. Et c'était le cas d'Alcatel, comme l'explique un numéro de spécial investigation en novembre 2016 sur l'arme fatale américaine, je cite, de l'anticorruption. Et le documentaire présente l'avocat Laurent Cohen-Tanuji qui a été moniteur pour Alcatel pendant 3 ans et demi.
Vous étiez le moniteur de l'entreprise Alcatel. Qu'est-ce que vous faisiez au quotidien?
Alors, on aurait de couper le nom de l'entreprise. Enfin, c'est public, mais je ne souhaite pas que l'entreprise soit mentionnée.
Ouais, je me suis permis parce que la liste est publique, votre nom est...
Oui, non, mais je sais. Mais dans le cadre de cet entretien, si vous voulez, je vous fais part de l'ensemble de mon expérience, qui n'est pas limitée à ce monitorship-là. Donc, je préférerais qu'on ne mentionne pas cette affaire-là en particulier. Mais voilà, bon, c'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous montrer un rapport de monitoring?
Non, c'est un rapport qui sont totalement confidentiels.
Pourquoi c'est confidentiel?
Parce que c'est confidentiel. Dans ces rapports, on détaille quand même, par exemple, un certain nombre de choses d'organisation d'entreprise qui ne regardent pas la place publique.
Vous, ça ne vous pose pas de problème, le fait de savoir que toutes ces informations confidentielles passent entre les mains des Américains? Bon, allez, vous pouvez nous le dire, il y a des secrets dans ces rapports.
Non, il n'y a pas de secrets. Mais il y a beaucoup, effectivement, il y a beaucoup de fantasmes autour de... Du monitoring, c'est quelque chose qui fait beaucoup phosphorer tout le monde. C'est un produit, nous avons les gens qui n'y connaissent rien. Bon, allez, je vais arrêter parce que...
Alors, est-ce qu'on peut préciser ce qu'il ne peut pas dire? C'est-à-dire, est-ce que ce monitor, qui est placé donc dans l'état-major des entreprises sanctionnées après la sanction, est-ce qu'il est juste l'œil de Washington, comme il y avait l'œil de Moscou?
Complètement. Alors, déjà, première chose, il faut que c'est évidemment totalement ignoré, vous n'avez pas donné la durée de ce genre de monitoring. Ça va sans problème jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire, pendant 5 ans, tout ce qui se passe dans l'entreprise, quel que soit d'ailleurs dans le monde, mais en l'occurrence, sur les entreprises françaises, les moniteurs sont souvent dans les holdings de Paris, enfin, siège de Paris, toutes les informations sont envoyées aux États-Unis.
Okay.
Alors, en fait, c'est souvent la partie du DOJ qui a conclu l'accord et qui fait...
au gouvernement américain.
Voilà. Mais, ce qui est très important, et ce que Laurent Cohen-Tanuji dit dans ses réponses, c'est que si... À l'occasion de ce monitoring, le moniteur tombe sur une autre affaire, n'importe quoi, alors une affaire de rupture d'embargo, une autre affaire de corruption, Ah ben, il n'y a pas de problème, les États-Unis remettent la machine en route et une nouvelle procédure d'attaque en justice sur ces nouveaux faits-là peut être procédée. C'est-à-dire que le fait d'être monitoré ne protège absolument pas, c'est plutôt l'inverse, de nouvelles poursuites américaines.
BNP Paribas est monitoré depuis 2014 et c'est l'entreprise qui doit payer. Effectivement, le moniteur et toutes les équipes que le moniteur a embauchées, y compris dans les filiales de BNP Paribas, etc. Donc ce sont des coûts non négligeables. Parce que derrière l'amende, il y a aussi ce que ça coûte, ces opérations. Ça coûte des centaines de millions de dollars avant, pendant le règlement avec le plaidé coupable et ensuite avec le monitoring. Donc, et c'est chronophage en plus, ça obsède les dirigeants, je veux dire, c'est une mise sous tutelle totale.
Moi j'ai une question qui me vient tout de suite là. Depuis le début de cette émission, donc, on dépeint les États-Unis comme le flic anticorruption du monde, mais je veux dire, les entreprises américaines, pour obtenir des marchés, jamais elles versent un pot de vin, elles. Je veux dire, c'est naïf, hein, mais...
Alors, il y a des entreprises américaines qui ont été condamnées par le DOJ, à Liberton notamment. Il y en a trois. À peu près, ça représente 20% à peu près de la totalité des condamnations.
Il me semble que dans le rapport de 2016, vous évoquiez 488 actions lancées depuis 1977. Donc ça remonte par la loi anticorruption. Et sur ces 488, 340 mettaient en cause des personnes ou entreprises américaines. Mais par contre, sur les 10 amendes les plus élevées, seules 3 concernent des entreprises américaines. Et les autres concernent des entreprises.
Elles sont poursuivies quand même, mais elles s'en tirent bien.
On est à peu près, en termes de montant de mémoire, si on accumule tout, on est à peu près moitié-moitié. Les entreprises américaines auraient payé autant au final que les entreprises européennes. Mais le vrai changement, c'est grosso modo depuis 2010, c'est-à-dire post-crise financière, où là, la mécanique d'utilisation de la loi anticorruption pour poursuivre des entreprises européennes est vraiment passée à un cran totalement. On a multiplié, grosso modo, les amendes par 10, plus ou moins.
Juridiquement, on parle du FCPA, qui est ce fameux texte de 1977. Pourquoi des entreprises américaines au départ étaient condamnées ? Parce que ça s'est déroulé sur le territoire américain, ou en tout cas avec des entreprises américaines. Effectivement, comme vient de le signaler à juste titre Aurore Berger, c'est que...
Karine
Berger, pardon, excusez-moi.
je suis pas sûr qu'elle soit très contente de la conclusion.
il s'avère que le FCPA est une loi américaine. On parle d'extraterritorialité, mais en aucun cas la loi ne prévoit une portée extraterritoriale, c'est-à-dire à portée en dehors du territoire américain. C'est en réalité une volonté de l'administration américaine. Là, il ne s'agit pas de complot, mais effectivement, c'est dans un contexte de guerre économique, dans un monde unilatéral et de globalisation des échanges, avec des entreprises qui ont des liens de plus en plus forts avec les États-Unis, notamment. Et de fait, c'est une interprétation du texte par le ministère de la Justice, le DOJ, le département de la Justice, qui va entamer à chaque fois un bras de fer avec les entreprises dont elle va constater des actes frauduleux au nom de la corruption, et va simplement, par le biais de cette lecture extensive du texte, imaginer que ce texte peut s'appliquer à des entreprises qui ne seraient pas américaines.
Alors à ce propos, je voudrais juste qu'on fasse un point de détail sur le rattachement, parce que bon, alors il y a des rattachements avec des câbles, mais si j'ai bien compris, il y a aussi du rattachement avec des fils de couture. C'est-à-dire l'entreprise qui a une filiale américaine, oui, elle est rattachée aux États-Unis, mais si j'ai bien compris ce que j'ai entendu ces derniers jours, l'entreprise dans laquelle, par exemple, des textos ont été envoyés avec un iPhone est considéré comme rattaché aux États-Unis du fait que...
– de logiciels ou de plateformes américaines, oui.
– Non mais c'est bien ça ?–
Oui,
le FBI se considère comme compétent à partir du moment où un mail transite sur une base de données sur le territoire américain. –
Un serveur américain.
– Le FBI se considère comme compétent.
Voilà, et sans aucune contestation de personne. De toute façon, personne ne peut contester. Donc,
Je vois une chose, on revient à ce qu'on était, vous contestez.
Ça aurait été d'autant plus réglé depuis peu par un nouveau texte, le Cloud Act, qui a été adopté le 28 mars 2018, avec un consensus des démocrates et des républicains signé par Donald Trump. Donc là, c'est à l'unanimité toute la classe politique américaine. Ce Cloud Act permet désormais aux services de renseignement et à l'administration américaine au sens large, donc les 17 services et le département de justice, de collecter toutes les données transitant, certes par des opérateurs américains, mais y compris pour des data centers basés en dehors du territoire américain. Ça règle l'affaire Microsoft avec Irlande, mais c'est surtout, ça permet maintenant de faire du renseignement électronique à grande échelle, malgré les révélations Snowden.
Est-ce que les Français ne se seraient pas quand même évité toutes ces avanies s'ils avaient eux-mêmes développé des instruments de répression aussi féroces que les instruments de répression américains contre la pratique de la corruption pour décrocher des marchés étrangers?
Alors, trois points. Ce que nous avons essayé de faire lors de la loi Sapin 2, et c'est ce que nous avons fait, et ça fait partie des petites victoires dont je suis personnellement en tout cas satisfaite, on a mis une loi anticorruption beaucoup plus dure et on a mis l'extraterritorialité dans la loi française.
Donc là, alors, Sapin 2, si je lis bien, c'est 2016. Hein.
C'est la loi, oui, c'est ça. C'est la loi de 2016.
Donc, on est bien d'accord que c'est une loi qui a été adoptée sous la pression américaine et parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose.
Non.
Il fallait qu'on fasse le ménage chez nous,
C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'était pas capable de démontrer qu'on était aussi capable de taper sur la table et sortir les instruments de lutte anticorruption, on n'avait pas grand-chose à dire aux administrations américaines qui attaquaient. Là, non seulement on a mis en place un système, c'est vrai, plus dur pour la lutter contre la corruption, mais surtout, on a mis dans le texte que si une entreprise américaine qui fait ne serait-ce que, je ne sais pas moi, 100 millions de chiffres d'affaires en France faisait de la corruption au Nigeria, il n'y a pas de problème, on attaquait nous aussi. Donc c'est ça l'extraterritorialité nouvelle. Et c'est, en se mettant à cette équilibre-là… –
Non mais attendez, ça ne répond pas à ma question. Si je comprends bien, la France a décidé de faire de la dissuasion en disant aux Américains, nous aussi on est capable de vous attaquer. Ouais. Mais la question est quand même, est-ce qu'avant… je veux dire, on ne s'est pas habitué à une espèce de sport national qui est la commission occulte, le pot de vin, et en fermant les yeux. Est-ce qu'on n'a pas.
Oh, non, mais est-ce qu'on n'a pas. Daniel Schneiderman, franchement, oui. je vous mets au défi de me citer un pays qui n'avait pas, à un moment ou un autre de son histoire économique, mis en place des mécanismes de financement parallèle, de facilitation des grands contrats internationaux. Il faut arrêter de plaisanter. Ça fait partie des choses qui, en tout cas, jusqu'à très récemment, étaient courantes.
Les Américains ont anticipé. C'est-à-dire que les Américains n'utilisent plus les valises de billets.
Oui, c'est ça. Hein?
Mais il y a d'autres moyens.
Ils font comment ?
Vous pouvez faciliter la carrière de gens bien placés. Les Chinois, ils ont une technique. C'est on prend les enfants des ministres et on les fait étudier gratuitement en Chine. Bon. Vous faites coup double comme ça. Bon,
c'est la corruption intellectuelle, si vous voulez. On a abandonné le principe de corruption financière.
Oui, il y a que les faibles. Oui, il y a que les faibles maintenant qui font les valises de billets. C'est fini. Alors, toutes ces affaires, d'ailleurs, remontent effectivement au début des années 2000, voire avant. C'est intéressant de revenir sur le cas de la différence de traitement entre les Américains et les Européens. Un cas précis. Alcatel a été poursuivi pour des pots de vin versés au début des années 2000 sur un contrat télécommunication au Costa Rica. Ils ont versé un pot de vin au président du Costa Rica de l'époque. L'affaire sort, le président est destitué, l'opposition arrive au pouvoir et hop, instruit une action en justice contre l'ancien président. Les Américains se saisissent du truc, poursuivent Alcatel. Comme par hasard, ça traîne. On fusionne avec Lucent. Au bout du compte, Lucent américain. Bon. Et Lucent, en fait, absorbe de fait Alcatel. Résultat, Lucent a exactement le même type d'affaires pour une corruption en Chine. Lucent est condamné à 1 million de dollars, Alcatel sera condamné à 137 millions de dollars.
Voilà, ça prolonge le.
Voilà.
Alors, je voudrais qu'on termine maintenant quand même en s'interrogeant sur la riposte possible. Que peuvent faire les Français, que peuvent faire les Européens? Alors, différentes éventualités ont été avancées ces derniers jours. On va s'arrêter sur une de ces possibilités.
Donc face à la puissance américaine, plusieurs personnalités, dont le ministre de l'économie Bruno Le Maire et l'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, pardon, Pascal Lamy, appellent à ressortir une vieille loi de 96. On peut les écouter.
La première réponse, c'est le règlement de 1996, qui est un règlement européen qui permet de condamner les sanctions extraterritoriales. Nous souhaitons renforcer ce règlement et nous souhaitons y inclure les dernières décisions qui ont été prises par les États-Unis.
L'Europe ne peut pas se laisser faire, elle ne doit pas se laisser faire. Il y a des instruments européens qui datent de 1996, qui s'appellent une loi de blocage.
Sauf que oui, cette solution en fait ne convainc pas tout le monde et c'est le cas notamment de l'avocat Ardavan Amir Aslani qui est spécialiste de l'Iran et qui était sur le plateau de RFI le 16 mai.
Regardons ce que propose l'Europe. Les trois mesures, quatre mesures proposées par l'Union européenne, ça ne marchera jamais. À quoi ça sert d'ailleurs de dire qu'on va passer des lois de blocage pour empêcher les entreprises françaises de se soumettre à la juridiction d'un pays étranger? Est-ce que vous croyez que ça va empêcher les tribunaux américains de poursuivre les entreprises françaises? Bien sûr que non. Les sanctions seront de nouveau imposées.
Alors, cette loi de blocage, est-ce que c'est un vieux, une vieille pétoire rouillée qui ne pourra jamais servir? Est-ce que c'est une arme efficace? Est-ce que tous les gouvernements, enfin le Bruno Le Maire, Juncker aussi, qui y a fait allusion à la fin du sommet de Sofia.
Un sabre de bois, voilà,
un tigre de papier.
Tout le monde fait de la gesticulation avec ce machin.
Oui.
En fait, la difficulté est la suivante, c'est que il y a deux lois de blocage différentes. Il y a la loi de blocage française et la loi de blocage européenne. Ah. La loi de blocage française est une arme qui pourrait être utile pour les problématiques, notamment de lutte contre le monitoring. C'est-à-dire que la loi de blocage...
68, c'est bien ça.
Voilà, tout à fait. Oui. La loi de blocage française dit, si une entreprise ne veut pas donner d'éléments stratégiques à un État étranger, elle est protégée par la loi de blocage française. Donc ça, on pourrait, si on voulait, l'utiliser de manière beaucoup plus efficace, notamment pour éviter que, via le monitoring, des informations sortent de notre territoire et aillent aux États-Unis.
Mais comment? Parce que si une entreprise sanctionnée refuse le monitoring, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les Américains l'appellent et lui disent c'est fini chez nous.
Oui, non, mais pas tout à fait, parce que quand le rapport de monitor arrive aux États-Unis avec des mécanismes enlevés, le département de justice, du fait des nouvelles lois anticorruption, notamment en France, est obligé de passer désormais par le ministère de la Justice française et donc par le mécanisme, justement, l'organisme qui s'occupe de mettre en place ces lois de blocage.
– Et il s'y plie.
– Eh bien, pour les premières fois, pour les premiers cas, on a l'impression effectivement que la discussion est ouverte et que pour la première fois, on prend un peu au sérieux, l'administration américaine prend un peu au sérieux les mécanismes français.
– Il y a eu des cas précis ?
Ah ben le premier cas précis, à mon avis, c'est la question de HSBC, même si ce n'est pas de la corruption, si c'est une autre chose. La négociation avec HSBC est le premier cas où on a une sorte de début de coopération. Je ne peux pas vous donner d'éléments qui m'ont été confiés par le parquet national financier, mais oui, la collaboration pour la première fois entre les administrations américaines et les administrations françaises est en train de démarrer tout doucement.
– C'est l'amende de 300 millions d'euros qui a été donnée récemment, c'est ça ?
La discussion, c'est pour la première fois.
Puisque Karine Berger ne peut pas en parler, de quoi s'agit-il exactement ?
C'est simplement que je retrouve, après l'adoption de la loi Sapin 2, donc il y a une nouvelle procédure qui a été introduite, qui en fait ressemble aux procédures de transactions américaines. C'est la première banque à avoir accepté de prendre en fait cet accord-là, qui donc a accepté de payer une amende de 300 millions d'euros, c'est HSBC.
Sur d'autres faits que des faits, mais ça montre que la discussion est possible. La loi de blocage européenne, ça n'a rien à voir, c'est la problématique des embargos dites des sanctions secondaires, c'est-à-dire ultra-extraterritoriales, c'est-à-dire quand une entreprise n'a strictement rien à voir avec les États-Unis, elle n'a pas à une entreprise européenne, elle n'a pas à succomber aux problématiques d'embargo. Mais le problème n'est pas celui-là pour l'Iran. Le problème, c'est que les entreprises qui font du business en Iran, elles ont toutes un intérêt américain. Donc le sujet n'est pas de savoir.
Donc il y a un sabre de bois américain, mais il y a une arme française qui pourrait être efficace, vous êtes d'accord ?
Oui, alors pour compléter davantage ce que vient de dire Karine Berger, la loi de blocage qui date de 1968 et qui a été modifiée en 1980, dans un contexte de guerre économique déjà, quand on rapporte les travaux parlementaires, c'est tout à fait édifiant déjà, et on s'en souciait à l'époque beaucoup moins en réalité. Et on n'était pas dans le même contexte. Cette loi de blocage oblige, en principe, toute juridiction extra-européenne, mais même non française, d'en faire la demande au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, pour la production de pièces. C'est une convention internationale de la Haye de production des pièces devant la juridiction étrangère, dans le cadre d'un procès, quand une entreprise est dans les mailles du filet. Les Américains ne l'ont pas respecté parce qu'ils nous ont dit « Français, vous n'appliquez pas votre loi ». La loi, elle sanctionne la communication de pièces devant un tribunal étranger par l'entreprise française, et c'est l'entreprise qui se trouve sanctionnée. Et puis la loi de 80 a ajouté un article 1 bis qui prévoit que ceux qui font la demande sans passer par ce filtre, parce que c'est un filtre, on ne parle pas de blocage, c'est un filtre en réalité, on examine la situation, on dit ça vous pouvez vous fournir, ça non, on estime que c'est contraire aux intérêts français. Voilà, ni plus ni moins. Et en réalité…
– Alors, je comprends plus bien là. Les Américains ne l'appliquent pas, mais commencent à l'appliquer,
ne la reconnaissent pas.
– Ne la reconnaissent pas,
parce que les Français ne l'appliquaient pas. Et depuis peu, grâce à la loi Sapin 2, effectivement, ils estiment, oui, vous avez fait un effort, vous-même, maintenant, vous êtes en mesure… –
C'est ce que je disais.
Voilà. – Absolument. –
La première fois, on est dans une discussion à un niveau de respect des traités internationaux sur ces sujets-là, mais c'est le démarrage, et je ne parierai pas non plus tout ce que j'ai sur le fait que ça continuera. Il faut vraiment voir en pratique comment ça se passera.
– Elle va sans doute être modifiée prochainement, on en parle aujourd'hui dans les ministères.
– Non mais actuellement pour l'Iran, on est dans la gesticulation, soyons clairs.
– Les Européens ?–
Oui, dans les éléments de langage. Parce que sur le fond, les grandes entreprises et les banques d'ailleurs ne financent aucune opération, n'ont financé aucune opération sur l'Iran.
Il y a deux banques qui ont financé, c'est des banques qui ne travaillent pas avec le dollar.
Bon,
pour ne pas avoir de lien d'attachement, si je comprends bien.
Donc, toutes ces grandes entreprises et toutes les banques ne travailleront pas avec l'Iran. On va demander pour la forme avoir des exemptions. Elles seront refusées. De toute façon, Total a très bien dit les choses. Il dit, nous, on ne peut pas se permettre. Alors le problème, ça va être pour Renault, pour Peugeot, qui avait déjà été une première fois en Iran, qui était le premier constructeur en Iran autrefois, qui était parti en pliant bagages. Et moi, j'avais été en Iran il y a quelques années. Les Iraniens, ça leur a été resté là. Peugeot avait plié bagages parce qu'à l'époque, ils avaient un actionnaire qui s'appelait General Motors. Donc ils avaient obligé Peugeot à plier bagages. –
Mais Peugeot qui ne travaille pas aux États-Unis, si j'ai bien compris.
– Non, mais, voilà. Oui, mais Peugeot a des intérêts… De facto, je ne sais pas très bien quand ils vont s'en sortir. Bon, Renault, pareil, ils ont installé, ils n'ont pas d'implantation directe aux États-Unis, mais ils utilisent le dollar. Donc ils sont piégés. Donc les entreprises vont se retirer parce que le commerce avec l'Iran, c'est epsilon par rapport au commerce et à ce qu'ils font avec les États-Unis, au commerce qu'ils ont avec le dollar. Donc les entreprises vont se plier et les gouvernements européens, d'ailleurs Macron l'a clairement dit, on ne peut pas imposer à nos grandes entreprises rentrer en guerre contre les Américains. Le problème, c'est qu'on accepte de ce fait la domination, la lex americana, puisque c'est l'imposition de la loi américaine partout, et donc notre souveraineté, et notamment la souveraineté européenne, cher à notre président, eh bien, elle est battue en brèche. Alors quels sont les moyens de s'opposer à ça? Les gesticulations ne serviront à rien. Ça veut dire qu'il faut une prise de conscience dans chaque gouvernement qu'il est temps que l'Europe devienne réellement indépendante et ose s'affranchir de la domination et du substrat atlantiste.
– Et concrètement, chef, on fait comment ?–
Ah ben, on fait comment ?– Non, mais le découplage, exactement. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte que les Américains peuvent être partenaires sur certaines opérations et en même temps peuvent être des adversaires et des adversaires résolus.
– Non, mais ça veut dire sur le plan philosophique, mais concrètement… –
Ah non, mais c'est concrètement, ça veut dire que ça commence par la défense. Ça commence par la défense. Comment voulez-vous être indépendant quand votre défense est assurée par les Américains? Clairement, ce qui pose le problème de l'OTAN, soyons clairs. Les Européens dépensent très peu pour leur défense. Ils s'en remettent aux Américains. Les Américains leur disent dépenser plus, jusqu'à 2%, sous-entendu, dépenser plus pour acheter des matériels américains. Or, les Européens, effectivement, achètent des matériels américains, et pas des matériels notamment français.
Karine Berger, la solution, c'est de sortir de l'OTAN ?
Alors moi,
La solution, à la fin,
est celle que je ne pardonnerai pas à tous les gouvernements européens depuis 15 ans, c'est de ne pas avoir fait de l'euro une monnaie internationale. Ça, c'est inacceptable. Exactement. C'est-à-dire que Airbus continue à vendre ses A320 et 319 en dollars. Ça n'a pas de sens. Cela n'a aucun sens. Aucune entreprise française, aucune banque française et aucune, à vrai dire, banque européenne n'a eu le courage de créer un vrai rapport de force sur les négociations, le financement des grands contrats internationaux et de basculer du dollar à l'euro.
– Vous mettez en cause les entreprises et les banques, mais une entreprise pouvait faire ça toute seule? Une banque pouvait faire ça toute seule ?–
En l'espace de 15 ans, quand la volonté politique, quand on a créé l'euro, quand on a tous basculé dans l'euro et qu'on avait cette volonté politique-là, soyons clairs, la raison pour laquelle ils sont restés en dollars, c'est pour des arbitrages, pour gagner 3 francs 6 sous, pardonnez-moi l'expression, sur un certain nombre d'arbitrages.
Même une multinationale toute seule pouvait dire je sors du dollar et je fais mes échanges en euros.
Ah, mais Airbus aurait très très bien pu décider de faire son catalogue
en
euros. Est-ce que vous vous rendez compte que moi, je n'ai jamais vu un seul prix d'Airbus en euros. Jamais. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est possible de payer un Airbus en euros. Enfin, ça n'a aucun sens. On voit bien que ça n'a aucun sens. Donc ça, pour moi, s'il y a vraiment un point sur lequel on a une faute collective, une faute politique et diplomatique, c'est sur la monnaie, parce qu'à partir du moment où on n'arrive plus, on n'arrive pas à croire à notre propre monnaie, il ne faut pas non plus s'étonner.
– Alors, c'est pour le passé, mais aujourd'hui ?
La première des actions, parce que tant que le dollar sera la monnaie internationale du commerce, je ne vois absolument pas comment, dans les guerres commerciales que nous sommes en train de vivre, ça ne soit pas une arme, évidemment, un atout fantastique pour les États-Unis.
Les Européens ont perdu deux souverainetés. La souveraineté monétaire, car l'euro est une monnaie régionale et n'est pas une monnaie mondiale. On a laissé au dollar, effectivement, le soin d'être la monnaie mondiale. Et nous avons perdu notre souveraineté de défense, parce que c'est les Américains qui assurent la défense de l'Europe.
Alors, j'entends bien, mais aujourd'hui, une entreprise, une multinationale, Airbus, pourrait décider de mettre son catalogue en euros.
Airbus devrait, et il faudrait que, évidemment, les banques européennes soient capables de suivre.
Voilà, et que les gouvernements français et allemands, qui sont directement parties prenantes, les appuient.
Bah, c'est un peu là où je voulais vous emmener. Je veux dire, oui, Airbus tout seul, ils peuvent dire oui, on va payer.
Airbus était prêt il y a quelques années à créer sa propre banque si nécessaire. Donc ils sont capables de beaucoup de choses, Airbus. Hein, c'est quand même voilà. Mais disons qu'encore une fois, je suis frappée de voir que personne ne l'a voulu. Comme si au fond, tout le monde était ravi de continuer à avoir ce langage commun, cette langue anglaise commune qui est le dollar, donc, enfin américaine. Donc franchement, commençons par là. Que les personnes qui sont responsables aujourd'hui au niveau européen, qui se sont exprimées de Sofia, commencent à nous expliquer que oui, l'euro peut être la monnaie d'échange avec l'Iran.
Pour l'instant, on n'a pas entendu ça, Sofia.
Non.
Voilà. Vous pensez que l'affaire actuelle peut être un tournant décisif?
J'espère que ce sera un tournant et diplomatique et économique. Un tournant diplomatique, parce qu'on n'a pas du tout parlé, ce n'était pas l'occasion que vous nous invitiez. Mais enfin, on est quand même face à un vrai sujet de positionnement au sein du Moyen-Orient et peut-être de guerre froide éventuelle avec la Russie dans les années qui viennent, ce qui n'est pas rien. Et par ailleurs économique, parce que pour la première fois, on s'aperçoit que si on s'était occupé de faire un marché de l'euro avec le Moyen-Orient et le Proche-Orient, l'Iran pourrait peut-être continuer à acheter des Peugeot.
Vous voyez une maison rouge, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Je pense qu'il faut redéfinir en termes stratégiques la volonté politique au niveau de la France et au niveau européen.
Concrètement.
Ça veut dire définir un véritable concept d'intelligence économique et de sécurité nationale avec un pan économique. Ce qui a manqué jusqu'à présent. Ce que les Américains ont fait, finalement ils le font très bien, autant s'en inspirer. Donc, peut-être faudrait-il un conseil national ou de sécurité nationale où on met en œuvre des moyens. Alors ça peut être d'abord définir des secteurs stratégiques, comme on l'a manqué pour Alstom, et malgré le fameux décret Macron dont on a parlé à l'époque, et au cas présent, pouvoir accompagner les entreprises et aussi contrôler les investissements dans ces entreprises. Je parlais tout à l'heure du Cloud Act. Le grand opérateur d'hébergement de données en France, c'est OVH. OVH est détenu en partie par des capitaux américains depuis peu, suite à un bras de fer et à des intrusions.
Donc, vous voyez, c'est d'ailleurs le serveur qui héberge l'émission,
la nôtre. Je l'ai sur le passage. Mais vous voyez, donc, comment on doit découpler, ça veut dire aussi cesser de travailler avec des cabinets anglo-saxons. On a parlé tout à l'heure, on a vu un avocat français.
Nous, il faut qu'on sorte de chez OVH?
Non, jusque-là, on n'allait pas plus loin. Mais peut-être faudrait-il cesser de s'arrimer toujours à une puissance qui, finalement, Hubert Védrine, notre ancien ministre des Affaires étrangères, disait « ami, allié, mais pas aligné », en parlant de notre relation franco-américaine. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils sont clairement devenus nos adversaires, en tout cas sur le plan économique. Donc il s'agit de les considérer comme des adversaires et de ne pas aller s'inféoder et les voir comme un suzerain.
– Très bien, merci à tous les trois pour ce tour d'horizon qui sans doute est le premier d'une série de plusieurs, parce que quelque chose me dit que nous ne sommes pas sortis de cette affaire. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Thank you.